France Culture. France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
C'est d'un livre et d'une thèse radicale dont nous allons débattre aujourd'hui. Le livre est signé Geoffroy de Laganerie. Il s'intitule « Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal » et il vient de paraître aux éditions Flammarion. En ligne de mire, le système pénal lui-même, la notion de crime et le principe même de répression qui mériterait tous les trois, selon l'auteur et d'un même mouvement, d'être aboli. Pourquoi et pour être remplacé par quoi? Alors à l'heure où plusieurs faits divers endeuillent des familles et marquent l'opinion, à l'heure aussi où la densité carcérale atteint 156,5% en maison d'arrêt, à l'heure enfin où Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur proposent de pénaliser plus durement les jeunes délinquants, un débat passionnant avec deux invités ce soir. Geoffroy de Laganerie, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Vous avez publié, je le disais en janvier dernier, Par-delà le principe de répression, 10 leçons sur l'abolitionnisme pénal. Face à vous, Denis Salas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat enseignant associé à l'École nationale de la magistrature. Vous êtes directeur scientifique de la revue Les Cahiers de la Justice et de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous avez publié notamment Le déni du viol, essai de justice narrative. C'était aux éditions Michalon en 2023. Merci beaucoup à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et pour commencer, je voudrais que l'on dessine pour chacun d'entre vous le paradigme intellectuel dans lequel vous vous situez, Geoffroy de Laganerie. Pourquoi expliquez-vous qu'aucune statistique ne démontre aujourd'hui le lien entre répression et sécurité ?
Déjà, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir pour en débattre. Je pense qu'effectivement, c'est une question très importante de penser que nous vivons dans une société où nous incorporons un certain nombre d'idéologies, un certain nombre de réflexes de pensée, un certain nombre d'intuitions premières qui nous sont données et avec lesquelles nous abordons la réalité. Et l'une de ces intuitions premières, c'est ce que j'appelle dans mon livre le punitivisme, c'est-à-dire de penser qu'il y aurait un lien dans une société entre le fait de punir un fait, le fait d'exposer des gens à la répression et le fait de diminuer l'occurrence d'un certain nombre d'actions et de diminuer le niveau de la violence dans la société. Ça fait partie d'un réflexe de pensée à quoi j'oppose la réflexion, c'est-à-dire le travail statistique, la philosophie, la sociologie, l'urbanisme, etc. Et le problème, c'est que quand on réfléchit de manière statistique et quand on compare entre les pays ou dans l'histoire des pays, on n'a jamais réussi à montrer l'existence d'un lien entre appareils répressifs d'État fort et criminalité faible. Vous avez tout est possible. Vous avez des appareils répressifs parfois très sévères et beaucoup de criminalité, comme dans certains pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine ou aux États-Unis. Vous avez des pays avec une pénalité faible et avec une criminalité faible, comme la Suisse par exemple. Vous avez aussi l'inverse, des pays avec une pénalité forte et une criminalité faible, comme le Japon par exemple. Donc en fait, vous n'avez pas de corrélation statistique, et c'est très contre-intuitif par rapport à notre représentation, entre punir un fait et lutter contre un fait. Vous avez plutôt quelque chose d'étrange, qui est une déconnexion entre l'activité répressive et la commission des violences dans une société. Je prends dans mon livre un exemple qui est important, qui est entre les années 70 et les années 90, vous aviez un taux de criminalité qui était identique en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis. Et sur cette même période, aux États-Unis, la population carcérale a quadruplé. En Finlande, elle a diminué de 70% et en Allemagne, elle est restée stable. Donc vous avez une activité répressive qui est complètement de déconnecter des pratiques réelles du crime, ce qui nous amène nécessairement à penser deux choses. La première, c'est est-ce que la répression lutte contre le crime, ou est-ce qu'on fait autre chose que lutter contre le crime quand on réprime un fait? Et donc, qu'est-ce que c'est que la volonté de punir, en fait, d'un point de vue sociologique? Et deuxièmement, s'il est vrai que l'activité criminelle est décorrélée de l'activité répressive, qu'est-ce que c'est les moyens objectifs avec lesquels on peut agir sur le crime et quels sont en fait les facteurs réels qui favorisent la diminution de la violence dans une société qui doit être notre but à tous.
Denis Salas, qu'est-ce que vous pensez vous-même de ce lien artificiel ou non, hein, vous allez nous le dire. Est-ce que la répression, est-ce que le punitivisme sont inefficaces?
Je crois qu'il y a un facteur qu'il faut introduire dans la réflexion, c'est la dimension politique. C'est-à-dire que vous avez effectivement à la fois, comme le dit Geoffroy de Laganerie, un État pénal qui assure la réponse de la société au crime, mais il y a aussi le discours politique qui introduit une dimension conjoncturelle, ponctuelle, colorée de différentes manières, pour construire le crime en fonction d'objectifs qui sont les siens. Ce que j'avais appelé à l'époque le populisme pénal, c'est-à-dire une forme de dénonciation de certains types de crimes, hein, donc qui sont construits par le politique, dans son discours, qui vont effectivement conduire à des législations qui vont réprimer certains crimes. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a trois facteurs qui jouent. D'abord, une instrumentalisation de la victime qui me semble extrêmement préoccupante aujourd'hui. C'est-à-dire la victime n'est pas considérée comme une finalité en soi, mais comme un moyen de punir les contrevenants qui sont concernés. Il y a aussi la dénonciation des institutions non élues, les figures de justice qui sont taxées de laxisme, par exemple, de ce point de vue-là. Et puis toute une idéologie pénale qui vient se greffer là-dessus en prônant ce que Geoffroy de Gandrin appelle le punitivisme. Je voudrais juste préciser trois choses. La première, sur l'abolitionnisme, parce que il faut que les gens aient en tête ce que c'est. Il y a l'abolitionnisme, je dirais, de la peine. On considère que la peine n'a pas de sens en tant que telle. Il n'y a pas de dissuasion, elle ne dissuade pas, elle ne rétribue pas, elle n'a aucun effet sur la société en particulier.
Mais ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'était l'origine même et le sens de ma question, justement.
Oui, c'est précisément ça. La figure, le sens de la peine varie en fonction des conjonctures. Moi, simplement, je pense qu'il faut avoir un regard critique là-dessus, bien évidemment, et pas seulement un regard purement négatif. Il y a aussi un abolitionnisme étatique, hein, c'est très important, c'est-à-dire qu'on considère que l'État n'a pas à se mêler du crime, c'est les communautés, la société qui a le faire, et puis l'abolitionnisme carcéral dont on parlera tout à l'heure, qui est l'abolition de la prison. C'est sur ces trois abolitionnismes qui me semblent devoir réfléchir, et c'est cela qui nous incite à avoir un regard critique sur le système pénal, pas seulement un regard radical, mais aussi un regard critique et constructif.
Mais je me permets quand même d'insister, Denis Salas, vous avez abordé le sujet du discours politique au sujet du crime, il y a tout de même quand même une réalité physique du crime. Il y a des gens qui sont assassinés, d'autres qui sont violés, certaines personnes qui sont volées. Là-dessus, quel est votre avis ? Est-ce que là encore, la répression pour être inefficace dans ce domaine, pour tenter de réduire ces crimes-là ? Et après, on réfléchira à la notion même de crime.
Il y a deux niveaux de réponse. Il y a la première réponse que donne la justice pénale, qui est une réponse en termes de sanctions. Donc la demande qui est faite par la société, c'est de réprimer avec ce paradigme carcéral qui fait que la peine la plus significative est l'emprisonnement. Donc là, c'est une réponse tout à fait classique, je dirais, habituelle à la peine. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'emprisonnement. Il y a aussi le travail qui est fait sur la peine en aval de la peine prononcée, qui est retravaillée par la justice de différentes manières, notamment par les aménagements de peine, que ne comprennent pas toujours les gens de l'extérieur. Mais la réponse principale, pour répondre à votre question, c'est l'emprisonnement, c'est la figure canonique de l'État pénal aujourd'hui.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Véronique Le Gouaziou. Elle parle du sentiment d'impunité. Elle est sociologue, chercheuse associée au laboratoire méditerranéen de sociologie. Elle s'exprimait en 2020 dans Le Temps du débat.
Au fond, si on compare le nombre de viols déclarés par les victimes dans les enquêtes de victimation avec le nombre d'affaires effectivement portées devant une cour d'assises, on a un rapport de 1 à 2%. Donc c'est bien plus qu'un sentiment d'impunité. C'est au fond une sorte d'impunité réelle. Mon sentiment, moi, est que ça fonctionne pas bien, le traitement pénal des affaires de viol, et que, alors, pour tout un tas de raisons qui seraient trop longues d'évoquer ici, dont certaines ne sont pas illégitimes, du reste, hein, quand on examine les dossiers, effectivement, un très petit nombre d'affaires de viol se termine en cour d'assises sur un très petit nombre d'affaires de viol connues de la justice. Au fond, la justice méconnaît la quasi-totalité des affaires de viol déclarées par les victimes, en tout cas lors des enquêtes que nous réalisons.
Question importante hein, que celle de l'impunité, Geoffroy de la Gannerie. Pourquoi néanmoins ce sentiment d'impunité, cette notion même d'impunité vous met-elle mal à l'aise ?
C'est vrai que le livre, il se veut une réflexion de sciences sociales, de philosophie sur toute l'architecture qui construit le punitivisme dont vient de parler Denis, c'est-à-dire en fait, le punitivisme, c'est pas seulement l'équation simple punir pour lutter contre, c'est aussi toute une anthropologie de l'homme comme individu responsable, c'est aussi une catégorie comme celle de crime, c'est aussi une notion qui veut que le crime soit une atteinte à la société, qui fait qu'on est accusé par un procureur, c'est une scène comme celle du tribunal, c'est une institution comme celle de la prison. Donc vous avez tout un bloc comme ça qui forme dans nos sociétés ce qu'on appelle le punitivisme, et que le livre essaye de mettre en question à travers, en opposant en fait une autre compréhension de l'action humaine et de la réaction aux événements humains, que j'appelle l'abolitionnisme pénal. C'est pour ça que c'est important de le dire, c'est que l'abolitionnisme pénal n'est pas seulement un acte négatif de dire on arrête de punir, même si c'est le premier mouvement, mais c'est aussi un mouvement de reconstruction d'autres institutions, d'autres compréhensions de l'homme, d'autres de rapport à l'autre, d'autres de rapport à la violence. Et donc c'est aussi une proposition d'ouvrir un imaginaire de la blessure et de la gestion de la blessure qui est complètement appauvri dans nos sociétés par une espèce de simplisme et de monisme qui veut illégalisme, punition, prison, correction, tribunal, etc. Et se dire que par rapport à tous les illégalismes aussi différents qui se passent dans une société, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des solutions plurielles et beaucoup plus immanentes aux rapports sociaux ? Et le point de départ politique du livre qui a complété ce point de départ philosophique, c'est effectivement de constater que dans la gauche, depuis une dizaine d'années, l'un des mots qui marque la revendication politique,
c'est celui
le mot
d'impunité
et oui. De fin de l'impunité. Vous savez, la politique est un domaine bizarre parce que c'est un problème, c'est un domaine de la vie qui est très daté. On peut dater les discours politiques de façon extrêmement forte par la manière dont ils sont énoncés. Et dans les années 60-70, les mots révolution, libération étaient au centre du discours de la gauche radicale. Et aujourd'hui, les mots impunité et fin de l'impunité sont comme des réflexes discursifs qui sont ancrés chez les militants, les hommes politiques, les gens qui luttent contre les violences, etc. Le problème, c'est que quand on utilise le rhétorique de l'impunité, on ratifie un discours qu'on a toujours combattu à gauche, qui était le discours traditionnel de la droite et de l'extrême droite, qui pense que quand il y a un problème dans la société, c'est parce que les individus ne sont pas assez punis, c'est parce que la justice est laxiste, c'est parce que vous avez des individus qui échappent à la sanction. Et donc si jamais dans vos luttes à vous, vous reprenez le mot d'ordre de l'impunité et de l'idée d'impunité, en fait vous êtes faible si jamais vous avez ensuite un ministre de droite qui dit s'il y a des problèmes d'agression de bande, s'il y a des problèmes de trafic de drogue, c'est parce que les gens ne sont pas assez punis, parce que vous avez le même diagnostic. Donc l'idée du livre, il est de dire qu'est-ce que ça voudrait dire d'être cohérent avec nos discours à gauche, si depuis très longtemps nous interrogeons la prison, nous interrogeons la répression, nous interrogeons les technologies punitives, qu'est-ce que ça veut dire de le faire aussi dans les combats qui sont les nôtres, sur la question des crimes policiers, sur la question des crimes sexuels, sur la question des agressions, etc., des criminels climatiques, tout ce que vous voulez, et de maintenir en fait cette disposition antirépressive, y compris pour ces sujets. C'est important la question. Sur l'impunité du viol, par exemple, est-ce que la pénalité diminue l'occurrence d'un certain nombre de faits ? Sur le viol, effectivement, beaucoup de viols échappent à la justice, mais en fait, c'est pas seulement
l'immense majorité même.
Mais pas seulement pour le viol. Ce qu'on montre tous les abolitionnismes pénaux, et dont j'essaye de restituer cette tradition qui est peu connue en France, de Lucullsmann, de Nils Christie, des criminologues critiques norvégiens, des Pays-Bas, etc., c'est qu'en fait, il y a un écart gigantesque dans la société entre le nombre d'illégalismes qui sont commis chaque jour par les individus partout et tout le temps, et ce qui est apporté à l'état pénal. Ce qu'on appelle le taux de criminalisation, et il est de toute façon autour de 1% dès qu'on a fait des enquêtes sur pratiquement tout. On sait que 80% des adolescents commettent au moins un délit au cours de leur adolescence. Donc si le punitivisme était intégral, on aurait 80% des adolescents en prison aujourd'hui, ce qui n'a strictement aucun sens. Si jamais vous réfléchissez à un acte, par exemple, qui n'est pas impuni, qui est le meurtre. Le meurtre est peut-être l'acte le moins impuni dans nos sociétés. C'est celui qui échappe le moins à la connaissance de l'appareil répressif d'État. Ben, c'est intéressant, si vous prenez le cas des féminicides, par exemple, vous savez que vous avez en France environ 200 féminicides par an. C'est une statistique qui est stable depuis une dizaine d'années, alors que depuis 10 ans, on a fait 6 lois qui ont aggravé les peines contre les féminicides. Donc on a augmenté la répression pénale, et pourtant on a maintenu le niveau de féminicide exactement au même niveau. Ce qui veut dire que la répression pénale accrue n'a pas diminué la quantité de violence et l'exposition des femmes à la violence domestique. Et ce qui veut dire que peut-être même, d'un point de vue plus dynamique, est-ce que la manière de gérer ça de manière pénale n'est pas liée au fait que ces faits se reproduisent, parce qu'elles empêchent une compréhension fine des situations qui les produisent.
Denis Salas, sur cette notion d'impunité, sur l'impunité même, est-ce qu'elle est pour vous un symptôme quand même de l'inefficacité du système judiciaire, du système pénal ?
Absolument, elle peut l'être dans une certaine mesure. À mon avis d'ailleurs, il y a deux niveaux d'impunité, deux types d'impunité. Vous avez un scandale de l'impunité qui est généré par la société elle-même, qui réclame, on l'a vu pour le viol dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, qui réclame une punition accrue à l'égard des accusés. J'étais au procès de Mazan récemment, on a entendu dans le public 20 ans pour tous, le juge a été plus modéré, fort heureusement, mais on voit bien là le cri d'alarme que lancent les groupes féministes de ce point de vue-là. Donc c'est une impunité générée par un sentiment qui jaillit comme ça de la société et qui exprime une sorte de revendication de punition qui vient du scandale, du mal, pourrait-on dire, qui est ressenti comme tel. Et d'ailleurs on voit très souvent générer ce sentiment-là dans de nombreux domaines de la société elle-même. Vous avez des concepts pénaux, l'écocide par exemple, qui jaillissent comme ça de la part des militants écologistes qui veulent surpénaliser en quelque sorte des situations beaucoup plus complexes par un concept qui pourrait apparaître comme magique de certaine manière, l'écocide par exemple, mais on pourrait en trouver d'autres, qui va effectivement occuper tout le terrain d'une certaine mesure. Voilà, donc il y a du côté de la société, il y a ce sentiment-là qui jaillit. Donc je dirais que simplement que la collectivité veut s'emparer du crime par rapport à des exigences réparatrices qu'elle s'attribue elle-même et qu'elle ne laisse pas aux politiques gérer directement.
Elle veut s'emparer du crime ou elle veut simplement éprouver un sentiment de justice ?
Elle veut nommer le crime. Elle veut nommer le crime et s'attribuer la capacité de le nommer en ne laissant pas cette capacité de nomination aux politiques. Et juste pour terminer, une deuxième source d'impunité qui est le discours politique, médiatique, tout ce que vous voudrez. Qui est le cas des mineurs dont on vient de parler, dont vos journaux viennent de parler, est tout à fait intéressant. Il y a une impunité de la délinquance juvénile aujourd'hui qui est une aberration absolument totale quand on voit que qu'il y a une tolérance zéro à l'égard de cette délinquance, qu'il y a une proportion très faible de mineurs en prison actuellement et qui est stable, vous le dites dans votre livre. Et justement, le droit pénal, qui est un droit, pour mineurs, qui est un droit éducatif, va effectivement être totalement repensé par un discours politique qui s'appuie sur une notion d'impunité des mineurs délinquants pour dire... Eh bien, on va en terminer avec ces dimensions éducatives en prenant la comparution immédiate pour les mineurs ou la fin de l'excuse de minorité. On voit comment cette notion d'impunité est travaillée de différentes manières par les discours, selon qu'ils viennent de la société civile ou du politique.
Je vois la gannerie.
Juste un mot important parce que l'une des choses sur lesquelles on réfléchit peu, c'est la bizarrerie de la psychologie humaine. Et quand vous réfléchissez sur le crime, on a l'impression que si on crée un univers du crime, on va créer quelque chose comme une forme de réticence à accomplir ses actions. Est-ce qu'en fait, on montrait beaucoup de psychologues sociaux, mais aussi de juristes comme Kelsen, c'est que paradoxalement, quand vous créez une catégorie de crime, vous attirez des gens. C'est-à-dire que si vous créez un univers de pratique que vous désignez comme le négatif du monde social, et que vous désignez comme un type de pratique où quand vous les commettez, vous mettez en question l'ordre social, quand vous êtes dans des dispositions agressives par rapport à la société, quand vous avez le sentiment que la société vous persécute, ou alors si vous avez des dispositions psychiques un peu perverses, etc., le crime, ça peut vous attirer. Ça peut vous attirer de faire du crime, précisément parce que comme ça, vous faites la guerre à la société. Et c'est ce qui explique que dans pas mal d'études sur la délinquance, notamment juvénile, dans les milieux défavorisés ou chez les jeunes des quartiers populaires, en fait, le fait que les actions soient définies comme des crimes fait un attrait pour le crime. Et même parfois, c'est considéré comme négatif de ne pas avoir fait de crime, de ne pas avoir été en prison parce qu'on n'a pas attesté de son capital de réticence ou de son capital de résistance à l'ordre public. Ce qui fait que de manière paradoxale, c'est la catégorie de crime qui attire des gens à le commettre et qui crée un cycle infernal, production de violence, répression pénale, production de violence, etc. Il y a même des juristes extraordinaires comme Kelsen qui dit quelque chose qui m'a semblé vraiment passionnant, où il dit, en fait, c'est pas vrai que l'État interdit des actions quand il fait un code pénal. En fait, l'État, il met des prix à des actions. Il dit pas que le meurtre est interdit. Vous pouvez tuer dans la France. Seulement, c'est 20 ans. En fait, il dit le code pénal, c'est comme un menu au restaurant. S'il y a des plats, puis à côté, vous avez des prix. Et si vous êtes prêt à payer le prix, vous avez le droit de faire l'action. Et donc, d'une certaine manière psychologique, il y a presque un effet d'autorisation. Et on sait qu'il y a des gens qui parfois tuent et vont se rendre immédiatement au commissariat en disant « j'ai fait l'acte et maintenant je vais payer ma peine ». Comme si, en fait, paradoxalement, ça avait légalisé l'action, ça l'avait autorisé en disant « il y a juste une conséquence à votre action ». Donc vous voyez, c'est très compliqué comment fonctionne le monde social. Qu'est-ce qui fait qu'on tue? Qu'est-ce qui fait qu'on tue pas? Et ce que montrent toutes les études, c'est qu'en fait, les facteurs les plus puissants de désincitation des pulsions agressives, elle se trouve dans la structuration des milieux sociaux dans lesquels les gens grandissent et des dispositions que les gens incorporent au cours de leur existence. Je prends un exemple dans mon livre qui est frappant, qui est que quand on a voulu expliquer la diminution majeure de 50% des crimes contre les personnes et de l'homicide aux États-Unis à partir de 1991, qui sont produits de façon très massive, on a cherché toutes les explications possibles. On a cherché dans l'efficacité de la police, on a cherché dans l'efficacité de la justice, on a cherché dans les enquêtes et on n'a jamais trouvé de corrélation. Et l'explication que deux économistes ont donnée et qui a fait date comme un texte majeur, c'est la légalisation de l'avortement en 1973, c'est-à-dire 18 ans avant 1991, parce que ça a fait que 2 millions d'enfants ne sont pas nés dans les familles défavorisées ou monoparentales, qui sont celles qui ont tendance à favoriser des productions des milieux de personnes qui vont être délinquantes. Et donc c'est en affectant, en donnant des politiques progressistes en fait, de transformation de la politique familiale, de pouvoir étaler les naissances, de pouvoir avoir des enfants choisis, qu'on a diminué le niveau d'homicide et de criminalité dans la société. Donc vous voyez, c'est subtil comment fonctionne une société et c'est très très différent de la manière dont on peut le penser. Qu'est-ce que ça voudrait dire de lutter contre l'homicide par des politiques féministes et pas par des politiques répressives?
Une question quand même dans ce débat importante, la place de la victime, des victimes, si on abolit le système pénal, si on abolit également la scène judiciaire et tout ce qu'elle charrie, quelle place accorder à la victime? Cette justice, elle sert aussi à rendre justice à des personnes qui ont été lésées, aux victimes en l'occurrence, elles permettent à ces victimes d'aller mieux, c'est souvent une forme de catharsis qui se déroule, vous avez parlé de Mazan tout à l'heure, c'en est un exemple, mais parmi bien d'autres, parmi tant d'autres, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, justement, Denis Salas, de la place des victimes dans la situation abolitionniste?
Alors d'abord, la situation des victimes, elle est très, très récente dans la justice pénale. Elle apparaît dans les années 80. Auparavant, l'État pénal occupait toute la place, le procureur, le juge. C'est-à-dire l'État pénal a accaparé complètement les réponses aux crimes en ne laissant plus rien, finalement, aux victimes privées, jusqu'à ce qu'elles décident précisément de revenir sur la scène par le biais de la Constitution de partie civile, notamment, qui est le chemin habituel. Alors, moi, je l'ai très bien vu dans les procès du terrorisme, par exemple. Procès du terrorisme, on imagine qu'effectivement, l'État pénal, dans sa majesté, dans son souci d'imposer, de faire régner la sécurité, le trouble d'ordre public, va occuper le terrain intégralement par des mesures de type exceptionnel, avec une cour d'assises spéciale, et avec des lois fondées sur un régime particulier, eh bien, précisément, même dans ce registre-là, les victimes ont occupé une place considérable. D'abord parce que c'était extrêmement nombreuses, d'une part, mais surtout parce qu'elles ont occupé une place par le témoignage, par l'enquête auquel elles ont contribué, et surtout par la capacité d'introduire une émotion dans le débat public qui effectivement était jusque-là absent, et de contester, et c'est ça le point important, de contester l'État pénal, précisément à l'audience. Moi j'ai vu, il faut voir ce que ça représente, des hommes politiques, François Hollande ou d'autres, Bernard Cazeneuve, interrogés par des avocats de partie civile pendant plusieurs heures à l'audience. Donc ils rendent des comptes, si vous voulez, devant les victimes, à la société, de leur action pendant les attentats.
Quand on entend ça, Geoffroy de la Gannerie, on se dit que le système pénal, la scène judiciaire d'ailleurs dans son ensemble, sert quand même les victimes, la parole des victimes.
Non, en fait, c'est très important cette question parce que il y a une intuition première qu'on a qui est un peu fausse, qui est de penser que quand on réfléchit en termes d'abolition pénale ou de critique de la pénalité, en fait, ce qu'on a en tête, c'est les coupables. C'est de critiquer la prison, c'est de critiquer l'amende, c'est de critiquer les mesures de violence d'État, et qu'en fait on serait un peu du côté des coupables et qu'on léserait un peu le droit des victimes à obtenir réparation, etc. Or en fait, la tradition abolitionniste que j'essaye de restituer et de comprendre, elle part des victimes. Et en fait, elle considère que c'est au nom des victimes qu'on doit mener la plus grande critique radicale de la pénalité.
Pourquoi alors ?
Donc elle n'est pas du tout anti-victime, elle est vraiment du côté des victimes. Bah, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'État pénal n'est pas du côté des victimes, mais vole aux individus leur expérience, puisqu'on va mettre au centre du procès non pas la victime, mais le procureur, ce qu'il appelle l'intérêt de la société, qui va accuser au nom de cet intérêt de la société.
C'est parce que décrit Denis Salas à l'instant.
Non, mais ça, c'est une... Il l'a même dit lui lui-même. Il a dit c'est une irruption qui se passe dans le procès pénal, un peu malgré le procès pénal, mais jusqu'aux années 80, c'était pas comme ça. Donc ça montre qu'il y a une structure du procès pénal qui, en tant que tel, le dit d'ailleurs explicitement, qui est que vous êtes accusé par le procureur, l'avocat général, et pas par la victime. Donc la victime, elle est mise au rang secondaire, au point que vous pouvez avoir, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire dans nos sociétés, des crimes sans victime, c'est-à-dire des choses qui sont punies alors que personne ne s'en plaint, tout ce qui a à faire au travail du sexe, tout ce qui a à faire à la drogue, par exemple, et qui produit des niveaux d'illégalisme énormes à travers le narcotrafic, à travers la traite d'êtres humains, etc. Donc le principe de l'État pénal, c'est de mettre au centre de l'équation l'État, l'intérêt de la société, et pas la victime qui est volée de ce qui lui est arrivé. Le principe de l'abolitionnisme pénal, c'est de dire les victimes, elles vont vivre de manière différente ce qui leur arrive. Tout le monde ne vit pas de la même manière la même chose. Il y a des gens qui vont le vivre comme quelque chose de très très grave. Il y a des gens qui vont vivre comme quelque chose de pas traumatique. Il y a des gens qui vont vouloir une réparation. Il y a des gens qui vont vouloir ne rien faire. Il y a des gens qui vont vouloir fuir. Vous avez le droit dans votre vie d'éprouver de manière différente des actes qui vous ont lésé de manière différentielle. Le problème, c'est que l'État pénal vous empêche totalement d'avoir ce droit-là à revendiquer votre manière à vous de gérer vos conflits, juste je finis, et que il impose une procédure unique, il impose un vocabulaire, il impose une procédure, et il vous vole ce qui vous est arrivé, au lieu de vous donner la possibilité de trouver par vous-même les moyens de sortir du conflit. Donc dans l'abolition pénale, il y a cette idée selon laquelle on va partir des vrais besoins des victimes, des besoins de protection, des besoins de réparation, des besoins de compréhension, des besoins de fuite, des besoins d'isolement, etc. Tout ce que vous voulez, et on va mettre au centre ces questions-là, et abolir tout ce qui renvoie à une violence purement sacrificielle et purement inutile, qui s'appelle la violence d'État.
Denis Salas.
Oui, non, simplement, il faut repréciser deux ou trois choses. D'abord, l'État pénal a pu effectivement s'ouvrir aussi aux victimes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et on l'a vu très largement pendant ces audiences-là et dans d'autres. Et il y a aussi, à l'intérieur même de cette discussion-là, une possibilité de se constituer de partie. C'est important, cette constitution de partie civile. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte porte-parole de votre propre intérêt, de votre propre souci d'être présent à l'audience, et vous avez le droit à la vérité. Les victimes demandent trois choses, essentiellement un accès à la vérité, et à part le pénal, je ne vois pas qui peut restituer ce récit véridique qui me semble être là décisif. Simplement la reconnaissance de cette place, et puis surtout, à la fin, effectivement, une réparation. Et je trouve que là, la dimension réparatrice est très importante. Elle est dans cette reconnaissance, et si vous voulez, à partir du moment où vous créez un fonds de garanties qui vous indemnisent, mais c'est extrêmement important parce que ça veut dire, et on est un des rares pays en Europe à le faire, ça veut dire que sur nos cotisations d'assurance sociale, cette indemnisation prélève un montant qui est reversé aux victimes par ce fonds de garantie. Ça veut dire que le solidarisme est présent dans l'État pénal, précisément, grâce à ce mécanisme-là. Donc l'État pénal n'est pas aussi homogène que le dit Geoffroy. Je pense qu'il y a aussi, dans l'État pénal, des niveaux, des couches de restitution qui donnent la place aux victimes et qui permettent tout de même de les reconnaître, de les indemniser, de les réparer. Et il n'y a pas uniquement le punitivisme, comme le dit Geoffroy, il y a aussi cette dimension-là qui me semble importante. Je peux juste ajouter une chose.
D'un mot, parce que je voudrais qu'on parle de la prison après.
Ah bon, alors, juste une chose. Il ne faut pas oublier, c'est un peu différent, mais quand même, l'État administratif qui me semble s'abstraire totalement des garanties légales. Et on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant le terrorisme. C'est très préoccupant parce que là, pour le coup, sans garantie, les libertés sont directement atteintes par des mesures unilatérales que l'État, effectivement, s'approprie sans laisser aux citoyens la possibilité de se défendre. Je pourrais parler très longuement de l'assignation à résidence, mais je n'ai pas le temps, apparemment.
Geoffroy de Laganerie, vous souhaitiez réagir, mais alors d'un mot seulement.
En un mot sur la vérité. Alors ça, moi, je suis absolument d'accord. Ce qu'il faut pour les victimes, c'est la vérité.
L'accès à la vérité.
Beaucoup de victimes, notamment de violences sexuelles ou de crimes graves, disent à quel point la reconnaissance de la vérité est tout à fait fondamentale. Mais alors là, c'est là qu'on a un désaccord radical. Je pense qu'il n'y a aucune vérité dans le système judiciaire et que la notion de vérité judiciaire est une antinomie, que par définition, le système pénal est un système qui va tordre les réalités, qui va empêcher de les investiguer profondément, notamment à cause de sa lecture individualiste et psychiatrique. Et aussi, quand même, il faut le penser, c'est que quand vous exposez des gens à la peine, ils n'ont pas intérêt à dire la vérité. C'est quand même quelque chose qui me fascine quand on parle de vérité judiciaire, c'est que si vous dites à quelqu'un, si tu dis la vérité, c'est 8 ans, vous avez plutôt intérêt à dire, je ne vais pas dire la vérité, je vais minimiser, je vais mentir, je vais dire que c'est de sa faute, etc. Et donc, vous êtes nécessairement dans un processus de falsification. Je dis juste une chose intéressante, dans un livre qui s'appelle « Les décisions absurdes », je ne me souviens plus du nom de l'auteur, j'espère qu'il m'excusera, il raconte ce qui se passe dans l'aviation civile à propos de la question des erreurs de pilotage. Et il raconte une histoire intéressante, il dit les erreurs de pilotage ou des erreurs des pilotes dans l'aviation civile, ça peut produire des conséquences dramatiques, des accidents d'avion. Et donc, c'est poser la question dans l'aviation civile, de quelle manière est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on puisse comprendre les erreurs et de quelle manière les pilotes pourraient avouer leurs erreurs pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse avoir la vérité. Et donc, l'un des principes qui a été adopté au fondement de l'aviation civile, c'est la non-punition. Et de comprendre que si vous soumettez les pilotes à la punition s'ils font une erreur, ils vont les masquer, ils vont les mentir, ils vont les euphémiser, on ne pourra pas apprendre de ces erreurs pour progresser. Et que donc, c'est la non-punition qui rend possible la véridiction.
Les décisions absurdes, je viens de vérifier sur mon téléphone, c'est Christian Morel.
Oui, d'un mot, c'est un chapitre, ça fait la loi du cockpit et c'est passionnant.
D'un mot, Denis Sage, je voudrais vous entendre quand même juste sur cette notion de vérité judiciaire. Je voulais dire, vous avez une minute, je repousse moi-même l'échéance que j'ai fixée.
Merci de cette minute. Simplement pour dire à Geoffroy qu'il y a effectivement une vérité que le procès détermine en fonction de l'enquête qui est faite par les juges d'instruction en particulier. Et c'est pas toujours la vérité que recherche la victime. Mais justement, dans le procès pénal, la victime peut demander aussi à produire sa propre vérité et un accès à la parole qui lui permet de le formuler. Vous avez différents cas dans les procès de terrorisme ou dans les procès de viol où elle exige cette vérité narrative, moi j'appelle narrative, pour effectivement répondre à sa propre demande. Et l'audience est un lieu où on peut tenter de la satisfaire en dehors des catégories pénales que vous évoquez, mais par rapport à des détails, à des indices, à des faits qui sont importants pour elle. Je pense aux affaires de viol où le détail est très important dans la construction d'un viol dans un système familial et où là, par le dialogue, par la discussion, eh bien effectivement une narration du viol peut apparaître qui satisfait la victime, qui n'est pas forcément prévue par les catégories pénales, mais qui émerge de l'audience et notamment du dialogue qui s'instaure.
Sur la prison, donc, Geoffroy de la Gannerie, vous êtes un abolitionniste tempéré, puisque vous n'êtes pas pour la supprimer totalement, radicalement. Il existe quelques cas où vous la gardez presque, vous la préservez même, cette prison. Pourquoi et dans quelles circonstances ?
C'est vrai que l'une des questions centrales, c'est que l'un des thèmes les plus puissants aujourd'hui dans la réflexion radicale sur le système répressif, c'est l'abolition carcérale, qui est devenu presque le mot qui a remplacé l'abolition pénale, et on est passé de l'interrogation de l'idée pénale à l'abolition de la question de la prison qui occupe un peu, qui focalise l'attention depuis en fait « Surveiller et punir » de Michel Foucault, qui a vraiment profondément changé notre manière d'analyser les systèmes pénaux. Le problème, c'est que je dis dans mon livre que, à mon avis, d'un point de vue réaliste et d'un point de vue sensible, il me semble irrationnel et pas crédible de ne pas pouvoir concevoir la prise de certaines mesures de rétention de liberté pour des individus particulièrement dangereux dans une société.
Vous parlez des plus grands meurtriers, vous donnez une série de noms bien connus.
Le crime en série, il y a tout un chapitre dans mon livre sur ce que j'appelle les cas limites de l'abolition pénale, et évidemment les grands criminels en série, les grands violeurs en série, les terroristes de masse, enfin voilà, ça n'aurait aucun sens de penser qu'on ne mettra pas en place provisoirement au moins des mesures de rétention de la liberté, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer à partir de ce moment-là, d'imaginer qu'est-ce que pourraient être des espaces de rétention de la liberté, qui fonctionnerait néanmoins très différemment de la manière dont fonctionne la prison. Je cite notamment les analyses très importantes de Henri Leclerc, le grand avocat pénaliste qui est mort l'année dernière et qui disait dans son livre, le problème de la prison, c'est qu'elle fait un millefeuille de privation. Elle prive pas seulement de la liberté, elle prive de la liberté de communication, elle prive de la liberté sexuelle, elle prive de la liberté de recevoir des amis, elle prive de la liberté de se balader. Et en fait, elle fait un millefeuille de privation parce qu'en fait, comme elle est conçue dans une intention doloriste et dans une intention d'expiation, on surajoute des privations.
Elle vise à faire souffrir.
Alors qu'en fait, une rétention de liberté dans une société abolitionniste, elle serait orientée non pas vers le passé, mais vers le futur, non pas vers un problème d'aggravation de la violence, mais justement d'essayer de comprendre les pulsions répressives, d'essayer de les démanteler. Et vous pourriez imaginer des systèmes comme ça qu'on appelle dans la tradition abolitionniste des sanctuaires. Donc on substitue la forme sanctuaire à la forme prison, par laquelle on pourrait provisoirement restreindre la liberté des individus pour essayer justement justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de les désamorcer si c'est possible, et d'apprendre aussi pour d'autres dans le futur qu'est-ce qui serait possible de faire.
Denis Salas, qu'est-ce que vous opposez, si je puis dire, à un discours abolitionniste sur la prison ? Est-ce qu'il y a des vertus de la prison ?
Oh, des vertus, ce serait peut-être aller un peu loin.
Mais
non, je trouve ça, c'est intéressant parce que il y a vraiment un débat là-dessus. Je vois que Geoffroy est plus réductionniste qu'abolitionniste sur la prison. Mais évidemment, face à la grande criminalité, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'au bout de l'abolitionnisme. Ça, c'est certain.
Pas pénal, mais carcéral. On fonde la prison sur autre chose que la peine.
D'accord, oui, j'ai bien compris. Mais simplement, est-ce que vous disiez tout à l'heure, prison, punir égale souffrir ? Je suis pas certain.
Non, je traduisais simplement un terme, le qualificatif de dolorisme, mais c'était pour...
Le dolorisme. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une adéquation, qu'il y ait une jouissance, par exemple, des juges à faire souffrir un individu parce qu'on le met en prison. Nice Christie, qu'on évoquait un petit peu tous les deux, parle d'une livraison de la souffrance par la punition. Je ne suis pas certain qu'il y ait une adéquation là-dessus. Par contre, il y a une indifférence à la souffrance carcérale. Actuellement, il y a 80 000 détenus en France qui sont entassés dans nos prisons, avec des matelas au sol, plusieurs milliers. Il n'y a absolument aucune espèce de débat public autour de cela. Cette surpopulation carcérale, qui est inédite dans notre pays actuellement, est très inquiétante, parce que ça a des conséquences très lourdes, on ne se rend pas compte de l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas avoir accès aux soins, vous ne pouvez pas accéder à des activités culturelles. Moi, j'ai fait des ateliers de lecture ou artistiques dans certaines maisons d'arrêt. C'est très compliqué de les réaliser, parce que les files d'attente sont tellement longues et les délais pour arriver à obtenir une autorisation, quelle qu'elle soit, deviennent impossibles à réaliser. Donc vous avez quand même là une souffrance induite par le système dont on abuse effectivement de l'usage aujourd'hui, qui me semble beaucoup plus l'adéquation, là je la reconnais, beaucoup plus forte aujourd'hui dans notre pays.
Mais comment est-ce qu'on résout le problème alors, Denis Salas ? Qui fait-on sortir de cette prison aujourd'hui ?
Alors effectivement, il y a un moyen d'en sortir, c'est ce qu'on appelle la régulation carcérale. C'est quoi ? C'est-à-dire que on va effectivement, à partir du moment où on considère qu'un individu entre en prison, on en fait sortir un autre, par un mécanisme d'équivalence qui permet effectivement d'obtenir un niveau de population carcérale suffisante pour respecter la dignité des détenus.
C'est mieux que construire des places nouvelles ?
Construire des places nouvelles, vous allez continuer à alimenter le système. Je pense, alors c'est ce que propose, je crois, le gouvernement actuellement. Mais je pense que c'est une fuite en avant extrêmement grave qui va produire de la souffrance. Alors pour le coup, je rejoins cette idée-là, mais qui me semble aujourd'hui nous coincer dans une impasse, parce que font les juges d'application des peines ? Il y a tellement d'entrées en prison par notamment les comparutions immédiates, par les mesures d'urgence que l'on connaît aujourd'hui, qui pensent uniquement à les faire sortir. Mais se faire sortir quelqu'un de prison sans préparer la sortie, c'est produire la récidive et produire l'insécurité.
Geoffroy de Linguagnerie, en quelques mots, c'est presque le mot de la fin, j'allais dire.
De fait, sur l'abolition de la prison, il y a d'abord un principe fondamental qui est lié à l'abolitionnisme pénal, c'est que nous ne devons rien à l'État quand nous nous blessons les uns les autres. C'est-à-dire que les illégalismes sont des blessures interindividuelles qui doivent être réparées de manière interindividuelle. Et il n'y a pas de raison que, en plus de la réparation individuelle, qui peut être monétaire, qui peut être dans la vérité, qui peut être dans l'indemnisation, qui peut être dans plein de choses, on doive donner de son temps à l'État à travers la forme de la prison. L'abolitionnisme pénal, il se fonde d'abord sur cette idée selon laquelle un crime est une affaire interindividuelle et ne concerne pas quelque chose de la société. Et donc, il interroge cette idée complètement folle dans nos sociétés, qui est que si, par exemple, là, je vous vole 50 euros, Quentin, je ne dois pas seulement vous les rendre et peut-être vous indemniser, je dois en plus donner peut-être 2 mois de ma vie à l'État, comme s'il avait été lésé par mon action de manière purement mythologique. Il y a quelque chose de mythologique, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose d'une abstraction pure dans l'idée de punition qui renvoie à cette idée selon laquelle on devrait quelque chose à l'État quand on s'est blessé interindividuellement. Et sachant, et je termine juste là-dessus en une seconde, que la prison, c'est une séquestration d'État. C'est-à-dire que c'est une manière dont l'État maintient quelqu'un dans une cave et que si jamais c'était des individus qu'il ferait, on parlerait de séquestration. On ne pourrait réserver des mesures de privation de liberté dans une société abolitionniste qu'à des gens qui ont fait des choses plus graves que la séquestration. C'est-à-dire qu'en gros, 80% des gens qui sont en prison aujourd'hui pour des délits, des petits illégalismes, etc., sortent immédiatement.
Denis Salas, en 15 secondes, on est déjà au-delà du temps.
Au-delà du temps. Simplement pour dire que pour réduire la violence, il faut aussi des tiers. L'État peut être un tiers, le juge, le policier, un intervenant extérieur.
Des médiateurs dans la justice
restauratrice. La relation que décrit Geoffroy, cette relation duelle, produit du conflit, de la violence. Et je pense qu'il faut des tiers pour, en quelque sorte, dériver cette violence vers le dialogue, vers la parole, qui seul peut nous délivrer de cet engrenage fatal que contient cette relation duelle.
Merci à vous deux, c'était passionnant. On aurait pu poursuivre très 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 longtemps. Il y a encore beaucoup beaucoup de sujets. Un débat signé Geoffroy de Laganerie et Denis Salas. Merci à tous les deux.
Merci.